c'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Le Canada est l'un des pays étrangers qui attire bon nombre des Congolais. Certains désirent aller y poursuivre leurs études universitaires. Cependant, bon nombre des personnes sont victimes des escroqueries par manque de connaissances, des procédures à suivre pour être légalement inscrits dans les universités canadiennes. Et il se développe de plus en plus des agences, par exemple à Kinshasa, qui disent, voilà, nous, on est là pour vous aider à aller étudier en Inde, aux États-Unis, au Canada, tout ça. Passer chez nous et après vous payez beaucoup d'argent et il n'y a plus rien. Voilà, c'est des choses qui arrivent souvent. Alors, vous avez des témoignages, vous êtes victime de ce genre de situation, n'hésitez pas, appelez-nous au 081 890 63 94. Daniel Jedi Jongambolo est chargé des cours en droit civil à la faculté des droits de l'Université de Montréal. Il est notre invité aujourd'hui, encore une fois bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions aujourd'hui pour prendre l'inscription dans une université canadienne?
Merci, Jody. Merci à Radio Kapi de m'avoir invité pour la deuxième fois. C'est vrai que ce sujet est intéressant à l'heure actuelle où se développent beaucoup de structures qui promettent le ciel aux étudiants congolais et finalement qui sont déçus parce que leurs projets n'aboutissent pas. Mm-hmm. Alors, avant de vous donner la marche à suivre, les étapes à suivre pour effectuer légalement ce type de démarche pour arriver au Canada, permettez-moi simplement de préciser deux choses importantes. La première est de dire que cette émission, enfin cet entretien, ne fait pas la promotion ici des universités canadiennes au détriment des universités congolaises. Au contraire, il est question de préciser en fait les points intéressants qui peuvent profiter aux étudiants congolais qui veulent aller accroître leur expertise, leur connaissance à l'étranger. Mmh. D'ailleurs, je pense que les études de premier cycle, le graduat, la licence, méritent d'être poursuivies ici. Ce sont les études de base où ici il y a une très bonne formation, vous avez des très bons professeurs et c'est bénéfique pour les étudiants de premier cycle qui viennent d'obtenir leur diplôme d'État, de pouvoir être encadrés, ils ont la famille ici, ça permet d'avoir une certaine maturité avant de pouvoir aller à l'étranger. Donc pour les étudiants de premier cycle, ils devraient plutôt se concentrer ici pour avoir une formation de base solide, parce que j'ai la preuve qu'ici il y a une très bonne formation, il y a des étudiants qui sont à l'étranger, qui ont fait leur premier cycle au Congo, qui se distinguent vraiment, qui sont très brillants à l'étranger, donc vous avez des bons professeurs ici. Là où ça devient intéressant pour les études au Canada précisément, c'est lorsque les gens ne peuvent pas ou ne veulent pas, enfin pour des raisons diverses, faire leur deuxième ou troisième cycle ici. Mm-hmm. En ce moment-là, ils peuvent aller au Canada où il y a quand même beaucoup de structures, beaucoup de moyens qui sont mis pour la recherche et qui sont développés pour la recherche. Et puis il y a aussi l'encadrement. D'ailleurs, les universités canadiennes sont plus en avance par rapport à certaines universités françaises où il y a un manque de moyens en termes d'accès à l'information. Donc, c'est pas simplement un problème des Congolais là. Donc, oui, dans ce domaine-là, il serait vraiment intéressant d'encourager les personnes qui ne peuvent pas justement faire leurs études supérieures ici. Et ensuite, là aussi c'est intéressant, c'est les gens qui veulent suivre une formation, les professionnels qui veulent acquérir une nouvelle expertise, qui veulent apprendre de nouvelles techniques pour donner des meilleurs services ici au pays. Là, c'est intéressant. Le Canada est en avance dans beaucoup de domaines. Vous avez par exemple dans le domaine de la petite enfance, vous savez qu'il y a des enfants qui ont des difficultés, soit par des difficultés en termes de langage ou de développement. Au Canada, ils ont beaucoup d'outils par rapport à cela. Alors, les professionnels d'ici peuvent aller sur une courte période de 3 à 4, 5 mois sur une formation et revenir au pays pour donner des meilleurs services. Donc, dans ce domaine-là, dans cette perspective-là, il est vraiment intéressant de se rapprocher de certaines universités canadiennes. L'autre information importante à retenir, c'est que qu'il faut savoir si on veut vraiment aller au Canada, faire des études et mieux s'intégrer. Il faut savoir que le Canada est un État fédéral. Ça veut dire qu'il y a deux ordres de gouvernement au Canada. Il y a le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. À cet effet, on a la loi fondamentale canadienne prévoit des compétences exclusives et des compétences partagées entre les deux ordres de gouvernement. Par exemple, en termes de services militaires, la compétence revient exclusivement au gouvernement fédéral, alors que dans le domaine de l'éducation, c'est une compétence exclusive du gouvernement provincial. Parmi les compétences partagées, on peut citer l'immigration. Donc les provinces ont leur politique de sélection.
Une politique d'immigration, ouais.
Voilà. Et le fédéral aussi à ses critères à travers l'agence, ce qu'on appelle le CIC, j'ai oublié la définition.
Bon, ça va venir.
Voilà, ça va
venir.
Alors,
mais pour un étudiant aujourd'hui ou pour les parents qui veulent, il y a beaucoup de parents qui ont peut-être des moyens, qui veulent que leurs enfants étudient dans des meilleures universités au Canada, aux États-Unis, mais qui se sont fait escroquer à plusieurs reprises par des structures ou par des personnalités, certaines personnalités, même des services consulaires. Mais aujourd'hui, quelles sont les démarches à faire pour ne pas tomber dans les pièges des arnaqueurs?
D'accord, c'est une excellente question. Je pense que les gens doivent avoir confiance en eux. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez étudier au Canada, qu'est-ce que vous faites? Parce que les démarches sont légales. Je veux dire, si vous connaissez l'information, il n'y a aucune raison que ça n'aboutisse pas, que ces démarches-là n'aboutissent pas. Donc, vous devez d'abord cibler l'université de votre choix et choisir la faculté qui organise les programmes qui correspondent à votre projet.
Il faut aller sur Internet,
sur
le site web
de
l'université en question.
Exactement. Alors, chaque université...
Et si on ne connaît aucune université, aucune institution?
Ben, en fait, c'est, je pense
qu'il faut rechercher.
Il faut chercher. Bon, c'est la première démarche, c'est vraiment la prise en charge. Il faut s'auto réguler. Il faut vraiment se faire confiance soi-même. Il faut d'abord commencer par chercher pour ne pas écouter tout ce qu'on vous raconte. Donc, vous allez sur Internet. Vous voyez, par exemple, les universités canadiennes. Vous allez voir la liste des universités canadiennes. Vous ciblez une université. Vous regardez les critères d'admissibilité.
Mais il y en a combien au Canada, les universités? Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous donner un
nombre. Vous êtes à l'université
de Montréal.
Montréal. Et aussi l'université du Québec.
À Montréal. Puis on a aussi, on peut citer l'université de Chicoutimi. Là, je ne fais pas la publicité.
Il y en a beaucoup. Manitoba, Vancouver, à Ottawa, il y en a plusieurs.
Tout à fait. Oui. Alors, la première chose pour éviter les arnaques, c'est d'abord s'informer d'abord. Si on voit qu'on est limité par rapport à l'accès à l'information, là, on peut se rapprocher des structures qui sont légalement installées ici, selon les lois et les règlements des autorités congolaises. Alors, et une fois que vous avez répertorié ces genres de structures, vous vous intéressez à la compétence des différentes personnes qui travaillent pour ces agences-là, pour savoir si vraiment elles sont compétentes, ces personnes-là, pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc, c'est vraiment quelque chose, il faut vérifier par vous-même les informations et être vigilant, et suivre étape par étape ce qu'on vous promet, et ne pas croiser les bras en disant, j'ai donné une somme d'argent, j'ai donné mon passeport,
et ils vont tout faire pour moi, et je vais aller au Canada.
Non. Et c'est là qu'il y a des problèmes finalement. Donc, si vous avez un individu qui vous promet justement le ciel, etc., si vous voulez faire confiance à cette personne-là, prenez le temps de chercher, d'aller sur Internet, sur Google, vous tapez son nom, son prénom. Vous allez voir ce que cette personne fait. Malheureusement, on peut avoir aussi des personnes qui ont une certaine autorité, un certain pouvoir, mais qui n'ont pas des compétences requises pour faire ces genres de démarches-là. Mais vous allez leur faire confiance quand même. Donc, faites le lien entre ce qu'on vous promet, ce qu'on vous présente comme service et le profil de la personne qui vous promet ce genre de service. Ça, c'est vraiment la base pour éviter les escroqueries, les arnaques. Voilà, c'est que on peut dire à ce niveau.
Alors, on retient que la première chose, allez vous-même sur Internet, vous avez
absolument
dit, et faites vos recherches. Il faut avoir confiance en soi-même, faire des recherches et trouver l'université de son choix.
Absolument.
Et on peut même directement prendre l'inscription en ligne.
Exactement. On peut prendre l'inscription en ligne. Si vous avez une carte de crédit, si vous avez les moyens de paiement électronique, vous pouvez absolument faire le paiement de votre admission en ligne. Là où les choses se compliquent, parfois, c'est d'avoir quelqu'un sur place à l'étranger ou enfin au Canada qui vous représente, qui peut faire le suivi, qui peut appeler lorsque ça traîne un peu par rapport au délai, qui peut vérifier pour vous et qui peut réceptionner votre correspondance, parce que ça peut mettre beaucoup de temps de recevoir son inscription en provenance du Canada. Alors, si vous avez quelqu'un sur place qui peut vous donner son adresse pour recevoir la correspondance, ça peut vous aider. Mais vous pouvez vous-même vérifier en tout le temps, enfin votre démarche. Donc il y a pas de magie, tout est écrit, tous les critères sont là. Si vous les remplissez, eh bien vous obtenez votre inscription. Donc il y a deux conditions essentielles pour aller étudier au Canada. La première condition, c'est avoir des bonnes notes. Si vous avez un excellent dossier académique, il y a aucune raison qu'on vous refuse l'inscription. Bon, il y a des programmes qui sont contingentés, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'étudiants qu'on admet dans ce genre de programme-là. Si vous venez en retard, ben vous ne serez pas admis malgré le fait que vous ayez un bon dossier académique. Il y a d'autres programmes qui ne sont pas contingentés, donc vous pouvez, dans les délais fixés par les universités, soumettre votre candidature. Donc, l'autre condition après pour avoir le visa d'études, c'est la preuve de moyens financiers suffisants.
D'ailleurs, il y a une question de Jovial Bakoulou. Il dit, quelles sont les filières qui sont les plus accessibles aux étrangers, notamment aux Congolais, au Canada? Quel est le montant à réunir pour avoir accès à une université, pour faire les troisième cycles, par exemple, au Canada? Pouvez-vous nous indiquer avec précision les conditions académiques, administrative, juridique et sociale à accomplir avant de quitter le pays au moment de l'installation au Canada et pendant son séjour là-bas? C'est la question de Joël Bakoulou. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
C'est une excellente question, une question vraiment complète. Les conditions d'installation ou les conditions juridiques, administratives pour arriver au Canada sont fixées par citoyenneté. Donc tout à l'heure, j'avais pas le nom, je parlais de CIC, mais citoyenneté immigration au Canada, c'est une agence fédérale qui fixe les règles en matière de procédure administrative pour obtenir un permis d'études pour aller au Canada. Vous avez aussi le Québec, comme je disais à l'introduction, l'immigration, c'est un domaine de compétences partagées entre le gouvernement fédéral et provincial. Vous avez aussi des règles qui sont fixées par le gouvernement provincial pour justement sélectionner les candidats qui veulent étudier dans cette province-là. Le Québec est intéressant dans ce que nous sommes en train de dire ici parce que c'est une province francophone et de ce fait, ça facilite l'intégration des étudiants francophones. Donc, vous n'avez pas de temps à perdre pour faire vos études.
Bon. Par rapport aux conditions académiques, souvent on demande les diplômes notariés. Il faut avoir des diplômes notariés, le relevé des cotes et tout ça. Quels sont les autres documents à revenir?
Oui, en fait, ça, là aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les conditions varient d'une université à une autre. Et puis, même en matière d'immigration, les règles, les lois changent très souvent. Donc, on va pas se figer sur, par exemple, les conditions que j'ai lues hier avant de venir à cette émission, parce qu'elles peuvent changer demain, dans une semaine. Donc, il faut juste obtenir la méthodologie, la démarche globale. C'est-à-dire se dire qu'il y a des conditions qui sont fixées selon le gouvernement fédéral, selon le gouvernement provincial. Il y a aussi des conditions d'admissibilité qui sont fixées par les universités, dépendamment du nombre d'étudiants qu'elles veulent recruter. Alors, effectivement, les diplômes, si vous n'envoyez pas les originaux, faut pas envoyer les originaux d'ailleurs, vous les faites, comme vous dites, notariés, c'est-à-dire on parle de copie conforme à l'original. Et ce sont ces documents-là que vous envoyez à l'université de votre choix. Bon, le montant de frais de scolarité à payer, là encore, ça dépend des universités. Alors, juste un exemple, l'étudiant qui est parti, qui a commencé brillamment son deuxième cycle depuis le mois de janvier de cette année, l'Université de Montréal, il paye c'est en dollars canadiens. Donc je sais pas, je vous donnais des prix en dollars américains, mais ça change là. C'est vraiment dépendamment des universités.
Mais est-ce qu'on peut tout de suite penser à une bourse? C'est pas tout de suite qu'on donne une bourse. Il faut d'abord réunir les moyens.
Oui, tout à fait. Il faut, quand on est étranger, on part des étudiants internationaux là. Il faut faire la preuve qu'on a suffisamment de moyens financiers.
Il faut avoir à peu près combien au départ, il faut combien?
Au départ, alors, une fourchette, hein, c'est pas un montant exact, hein, je peux te donner. Ça sont les exigences de Citoyenneté Immigration Canada. Pour la première année, vous devez globalement mobiliser entre 20, 25 000 dollars américains. Vous devez faire canadien, s'il vous plaît, de faire la preuve de d'avoir cette somme-là, au moins pour la première année de votre présence.
Bien que sur place, on pourra solliciter une bourse.
Oui, tout à fait. Si vous avez un excellent
partiel,
dossier académique,
par exemple,
oui, il y a des bourses.
Au total,
il y a des bourses d'exemption des frais de scolarité. Il y a des bourses d'excellence. Donc, il y a des moyens qui existent pour permettre aux meilleurs étudiants de pouvoir suivre tranquillement leur scolarité.
Voilà, il faut pas trop faire confiance à toutes ces agences. Il faut d'abord faire confiance à soi-même, comme vous l'avez dit.
Exactement.
Il y a même des parents qui ont perdu plus de 80 000 dollars.
Oui. Tout à fait.
Vous avez des exemples.
J'ai des exemples, j'ai des témoignages, j'ai des témoignages des gens qui ont perdu énormément d'argent. C'est moi qui les ai appelés pour leur dire je veux vous aider parce que ça m'a tellement touché. Je comprends pas pourquoi les gens agissent de cette façon-là. Mais bon, on est là pour faire un cours de morale. Mais c'est triste, c'est dommage. C'est moi qui ai forcé cette personne-là pour dire je veux vous montrer la différence, je veux vous aider. Je suis ici à l'université, j'ai la possibilité d'inscrire votre enfant et de lui donner cette possibilité-là de poursuivre ses études universitaires, parce que l'étudiant en question était dans une université qui n'organise pas encore le deuxième cycle, donc il préférait poursuivre ce cycle-là au Canada. Et très rapidement, on a fait les choses en 4 mois. Top chrono, et l'étudiant a obtenu son inscription, son certificat d'acceptation du Québec et son visa, son permis d'études. Et cet étudiant étudie tranquillement et a des très bonnes notes au Canada actuellement. Donc, il faut vérifier justement les personnes avec qui vous faites affaire n'est pas
faire. C'était des gens qui se présentaient comme ayant une agence tout ça et qui pouvaient les aider.
Ben souvent c'était des gens qui se présentaient comme des gens qui vivent au Canada ou aux États-Unis pour dire moi je vis là-bas, je suis confiez-moi votre enfant. Parfois c'est des gens aussi de la famille, des gens que vous connaissez, des amis, et puis vous faites confiance aveuglément. Alors il faut vraiment faire attention.
Faut faire attention, d'accord.
Voilà.
On va accueillir deux auditeurs. Malonga et Tabandonouville et Clément Daillé de Kananga.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Que faire pour obtenir l'inscription dans une université canadienne? Malonga de Bandundouville, bonjour. Malonga, bonjour. Voilà, il n'est plus là. Clément Daillé de Kananga, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour, je suis. Bonjour aussi à monsieur l'invité de la Radio Café.
Bonjour.
Je voudrais juste demander à l'invité, il est vrai que par rapport à ce qu'il vient d'annoncer et ce qu'il est en train d'introduire, normalement c'est très intéressant pour presque tous les Congolais et surtout la jeunesse congolaise. Mais je voudrais juste poser des petites questions à l'invité. Voilà qu'on sollicite de faire des études pareilles dans n'importe quel domaine. Mais je voudrais juste poser la question à l'invité. Qu'est-ce qui va normalement garantir ceux qui vont terminer dans les universités canadiennes, qu'ils disent ce qui doit normalement les garantir? Alors la deuxième des questions que je voudrais juste poser...
Oui, Clément, de quelles garanties vous faites allusion? Vous parlez de quelles garanties?
Vous dites...
Oui, vous parlez de quelles garanties?
Ceux qui vont terminer. Normalement, voilà, pour avoir le boulot, pour vraiment accepter à ce que l'entreprise soit une ONG, soit une structure... Ça pose trop de problèmes. Il a fallu trop de démarches. Voilà ce qu'on doit dépenser. Bon, acheter ceci, acheter cela. maintenant de leur part, qu'est-ce qui pourra normalement garantir ceux qui vont terminer là? Oui. Et maintenant, la deuxième des questions. Moi, je suis agronome. J'ai terminé le premier cycle. Maintenant, pour entamer le deuxième cycle, surtout dans mon domaine, est-ce que c'est très facile? Si c'est très facile, quelles sont certaines formalités que je pourrais remplir, soit accomplir, juste pour mériter de quelle façon aller étudier? Voilà ce que je voudrais te demander. Bonne journée, jeudi.
Merci. Alors, par rapport aux garanties qu'après vos études, vous aurez du travail, bon, ça, là, c'est pas... On ne parle pas de cela aujourd'hui. Nous parlons des démarches à entreprendre pour obtenir son son inscription dans l'université canadienne. Alors, sa deuxième question est intéressante. Il parle, il a terminé, il a fait son deuxième cycle en agronomie. Aujourd'hui, s'il veut aller poursuivre son premier cycle en agronomie, s'il veut aller faire le deuxième cycle au Canada, comment doit-il procéder?
Alors, oui, c'est une question intéressante parce que c'est vraiment le cœur de notre sujet. Oui, je pense que ce domaine-là d'études se retrouve forcément au Canada. Il y a des facultés, des universités qui organisent ce type de formation-là. Il faut simplement voir le... Parce que parfois les termes qu'on emploie ici ne correspondent pas aux termes qui sont employés au Québec. Mais quand on regarde bien le programme qui est proposé, on se rend compte que c'est exactement la même chose. On voit la liste des cours, l'objectif du programme, et là, on se dit, c'est ça l'équivalent de ce que j'ai fait au Congo. Oui, c'est possible de poursuivre ses études de deuxième cycle au Canada, dans ce domaine-là. Après, les démarches à suivre, c'est ce que je vous dis. Moi, personnellement, je suis conseiller d'un cabinet qui de droit congolais qui est installé ici qui s'appelle CCJSARL. Ce cabinet là est intéressant dans la mesure où il procède, il y a une méthodologie qui est tout à fait nouvelle dans ce genre de procédure. Justement, on a appris beaucoup de plaintes, d'escroqueries, des gens qui se plaignaient d'avoir perdu beaucoup d'argent.
Oui.
Alors cette structure là qu'est-ce qu'elle fait? Elle sélectionne les personnes, fait d'abord des entretiens. Moi, je les conseille à partir du Canada. On fait les entretiens pour déterminer le profil de ces étudiants-là, savoir s'ils sont admissibles ou pas avant qu'ils fassent n'importe quoi, avant de donner leur argent.
Mais aussi pour... le pourcentage, hein, souvent on retient seulement les étudiants qui ont distingué.
Exactement, qui ont une chance, disons 99%, 95% de chance d'être, 95% de chance d'être admis dans ces universités-là. Et donc, si la personne n'est pas admissible, on lui dit de ne pas poursuivre ces études-là. C'est ça, c'est que fait ce cabinet-là, c'est les conseiller pour dire attention, vous risquez de perdre votre temps et votre argent. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est intéressant. Et évidemment, si la personne est admissible, ce cabinet-là lui donne la marche à suivre. C'est ce que je disais, cette marche-là à suivre se trouve souvent sur les sites internet des universités. Donc, ici, on a un accès à internet, ici, tout le monde a accès.
Et le cabinet reçoit les gens et les prodigue des conseils gratuitement ou il y a des frais à payer?
Ben, en fait, les frais à payer, quand vous faites une demande d'admission, vous devez payer des frais d'admission, de demande d'admission aux universités que vous sollicitez. Vous devez payer les frais pour avoir, si vous êtes admis, le certificat d'acceptation du Québec. Donc, oui, il y a des frais à payer, mais avant d'arriver à cette étape-là, vous devez être sûr au moins à 95% d'avoir le bon profil recherché. C'est ça la différence qui se fait aujourd'hui avec ce cabinet-là que je conseille, pour lequel je suis conseiller principal à partir du Canada. Et ici, ce
et
sont
où
des Congolais.
Cabinet?
C'est un petit cabinet qui se trouve à l'UPN, sur 25 Avenue Marine. Donc les gens appellent normalement pour prendre des rendez-vous pour justement consulter,
avoir
des informations. Alors on leur dit que vous êtes le maître justement de votre propre dossier. Donc c'est ça la différence, parce que les gens, il faut qu'ils s'informent, il faut qu'ils aient accès à l'information en temps réel et ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire.
On va accueillir Constant de Kinshasa. Bonjour Constant.
Bonjour,
on vous écoute.
Ok, moi, ce que je voulais demander à l'invité du jour, voyons-nous, nous sommes ici au Congo, nous avons une langue là officielle, le français. Alors, pour le jeune Congolais qui peut aussi aller étudier là-bas, Alors, comment est-ce qu'ils peuvent, comment est-ce qu'on peut les aider aussi à s'adapter à la langue? Je ne sais pas quelle langue on parle là-bas, pour ces jeunes-là bien se retrouver aux études, pour qu'ils comprennent bien et écrivent bien cette langue-là. Comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes-là de s'adapter aussi à la langue du pays?
Merci.
Alors, la deuxième question que je voulais encore poser, alors, même pour les jeunes qui n'ont pas le moyen possible pour aller étudier là-bas, comment est-ce qu'ils peuvent faire? C'est comment? Le transport, c'est gratuit pour ceux-là qui vont solliciter d'aller étudier là-bas, ou bien c'est comment?
D'accord.
L'invité peut aussi nous expliquer.
Merci beaucoup. Chris Mutombo de Kinshasa, bonjour. Quelle est votre question?
Et bonjour, Jody. Bonjour à notre invité.
Oui. Bonjour. Chris, vous êtes là? Bon, peut-être qu'il essaie de... La communication, il y a un problème au niveau de la liaison téléphonique, mais il va peut-être sûrement nous rappeler. Constant dit, la langue, est-ce que c'est, ça peut être un frein? Ça peut empêcher beaucoup de jeunes Congolais de prendre inscription dans l'université canadienne. Il y a même un auditeur aussi qui nous a écrit des Kananga. Voilà, il dit, nous, les étudiants congolais, on éprouve aussi le problème des connaissances requises d'anglais. La plupart des universités canadiennes demandent une connaissance en anglais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Oui. Oui, c'est vrai que la langue est une question intéressante. Le Québec est une province francophone en Amérique du Nord. Et c'est pour ça que je disais à l'introduction qu'il était intéressant pour les étudiants congolais de faire un atterrissage en douceur en Amérique du Nord. Ça facilite, parce que cela facilite leur intégration. Et ensuite, vous devez faire un effort là pour apprendre l'anglais, parce que ça dépend de votre domaine de recherche. Là, vous allez voir que beaucoup d'écrits sont en anglais. Donc vous devez au moins savoir lire l'anglais, comprendre des concepts importants de votre domaine pour pouvoir faire de la recherche. Donc, vous atterrissez en douceur. Il y a le français qui est la langue officielle au Québec en matière d'enseignement, mais beaucoup d'ouvrages sont en anglais. Et là, il y a des cours d'anglais qui sont prévus justement pour vous permettre d'améliorer vos habiletés en anglais. Donc, il ne faut pas avoir peur par rapport à cela. Oui, on parle le français, mais aussi on utilise l'anglais en termes de recherche. Surtout que là, on parle de cycle supérieur. Évidemment, oui, il faut avoir des connaissances.
Des connaissances en anglais.
En anglais.
Et on peut les acquérir sur place.
On peut les acquérir sur place. Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur par rapport à cela.
Alors, il parle des moyens. Est-ce qu'on peut, l'université prendra en charge vos frais de voyage, de Kinshasa jusqu'à Montréal? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à Constant?
Alors, s'il a une bourse d'une université canadienne ou d'un organisme canadien qui le prend en charge à partir d'ici, peut-être on pourra justement payer son billet d'avion. Mais je dis ici des gens qui ont des moyens de pouvoir aller poursuivre leurs études supérieures au Canada. Ça veut dire qu'il faut payer son propre billet d'avion.
Donc, il ne faut pas compter sur l'université pour payer, vous payer les billets d'avion.
Non, pas du tout. L'université vous attend pour pouvoir payer les frais de scolarité.
Oui. Et le reste, c'est à votre charge.
Exactement. Hein. Mais c'est sur place que les choses se mettent en place. Avec le temps, vous allez trouver des moyens d'avoir des bourses pour pouvoir équilibrer vos finances.
Charles, on va accueillir Charles Kongolo de Kananga. Bonjour. Charles, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
De la parole plutôt. J'aimerais savoir, je suis en train d'envier aussi d'aller étudier à l'étranger. J'ai une personne de la famille qui se trouve plus précisément au Québec. Je lui avais intéressé cette situation, mais elle me dirait que non, les diplômes des Congolais ne sont pas pris en considération ici à l'étranger. Et d'après vous, d'après notre invité qui a vécu là-bas, qu'est-ce qu'il pourra me dire à propos de cette situation?
Voilà, il veut aller étudier au Québec. Son frère qui est là-bas lui dit que les diplômes obtenus ici au Congo ne sont pas considérés là-bas. Est-ce que c'est vrai?
C'est totalement faux. Simplement, c'est faux. Les diplômes congolais sont considérés dans les universités canadiennes. Donc, il suffit de légaliser de faire une copie conforme de votre diplôme, de vos relevés de notes, vous les envoyez pour votre admission. Alors, ça, c'est, je sais pas pourquoi on lui a dit ça. C'est faux. Donc
c'est pas vrai.
C'est pas vrai. L'étudiant qui a les étudiants qui ont commencé leur scolarité cet hiver de 2000 à l'hiver 2016, donc cette année, sont des étudiants qui viennent du Congo, qui ont fait leur premier cycle ici. Donc c'est faux ce qu'on lui a dit. Mmh. Voilà, je suis désolé pour lui.
Voilà, c'est faux. Il faut pas, il faut pas se fier à ces gens des choses, hein, d'informations qui circulent. Donc, il a besoin, en tout cas, d'aller étudier. Il désire aller poursuivre ses études là-bas. Ouais. Alors, pouvez-vous lui rappeler le numéro du cabinet? Peut-être qu'il peut appeler pour avoir des plus amples informations après l'émission.
Oui, tout à fait. Pas de problème. Je pourrais tout de suite lui donner le numéro du cabinet ici, qui est le 081 33 13 663. 081 33 13 663. Donc je suis conseiller de ce cabinet là.
Ce cabinet, oui.
Absolument. Donc pour justement permettre aux gens de pouvoir mieux s'informer, se prendre en charge.
Donc ce cabinet ne va que vous donner les informations.
Oui, voilà,
les informations dont vous avez besoin.
Exactement. Pour vous aider, vous accompagner dans la réalisation de votre projet. À la longue, personnellement, hein, je compte relier une université congolaise avec l'Université de Montréal, la faculté de l'Université de Montréal, à travers le programme de jumelage pour permettre justement les échanges entre les étudiants congolais et
vous êtes en séjour ici d'ailleurs, vous rentrez bientôt au Canada.
Oui, je rentre bientôt au Canada et mon but c'est de pouvoir créer un pont entre le Canada où il y a beaucoup de moyens en termes de recherche, parce que c'est là où la question est vraiment intéressante, parce que je disais que même les universités françaises ont ce problème-là. L'Amérique du Nord est un peu en avance, ils mettent plus de moyens dans ce domaine-là. Alors, un jumelage entre la faculté de droit, par exemple, de l'Université de Montréal et une université congolaise ici, profitera certainement à nos jeunes qui doivent revenir pour pouvoir participer justement au développement du pays. À la longue, on aura peut-être plus besoin d'envoyer les gens et faire le deuxième ou troisième cycle à l'étranger, parce qu'on aura déjà suffisamment de personnel pour les encadrer. Donc, c'est ça le but. C'est vraiment... quand vous sortez, c'est pour apprendre. Vous apprenez, que ce soit une formation de 3, 4, 5 mois, pour revenir donner des meilleurs services. C'est ça l'approche qu'on on devra avoir, parce que le paradis, je m'excuse, je dis, se trouve ici. Alors, on doit avoir cette approche-là, en tout cas.
Aller acquérir des connaissances et revenir.
Et revenir pour participer
au développement du pays.
Voilà.
Théophile nous appelle des Kananga, bonjour.
Bonjour, jeudi, et bonjour à l'invité de Radio Capi.
J'ai une
préoccupation. Je vous ai pris en cours de diffusion. Je me pose la question de savoir, puisque l'invité a trop parlé sur le deuxième et le troisième cycle des études au Canada.
Oui. Oui, Théophile. Désolé, apparemment, il y a des petits soucis. Au niveau de la liaison téléphonique, on n'a même pas entendu sa question.
Non.
Désolé, Théophile. Bon, j'essaie quand même de comprendre. Hein. Il dit, vous parlez du troisième cycle et du premier. Peut-être qu'il veut parler du premier cycle aussi. Est-ce qu'on ne peut pas aller faire des études de premier cycle là-bas?
On peut aller. Je dis pas que c'est interdit. Simplement, je vois pas l'utilité parce que vous avez une formation de base, une très bonne formation de base ici au Congo. C'est ça que je dis. Il faut faire confiance. Il faut savoir que les gens respectent les Congolais qui viennent du Congo, qui poursuivent leurs études à l'étranger. Je n'ai pas vu un Congolais à l'université qui a fait son premier cycle ici et qui est arrivé là-bas, qui ne savait pas quoi faire. C'est complètement ça n'existe pas, en tout cas pour les Congolais que j'ai rencontrés à l'université à l'étranger. Donc j'ai beaucoup de respect, de considération, et je dis simplement que c'est difficile pour un jeune étudiant de quitter son entourage, sa famille, pour commencer les études de base à l'étranger, alors qu'il peut les acquérir ici. Donc ici, on parle de la différence. Qu'est-ce qui peut faire la différence pour permettre justement de s'associer à l'expertise locale pour aller de l'avant? Alors, on a parlé des moyens de recherche, l'accès à l'information scientifique, parce que ces universités-là en mettent beaucoup plus de moyens, ils sont un peu plus en avance.
Dans la recherche?
Dans la recherche, voilà, dans la recherche. Non. Et je dis, c'est un problème aussi qui concerne les universités françaises. Donc, le Congo n'est pas en retard, c'est pas le seul pays qui peut dire, oui, peut-être qu'on n'a pas encore développé beaucoup d'outils en termes de recherche, non, pas du tout. Donc, mais la formation de base, on peut l'acquérir ici. Vous faites vous avez votre examen d'état, les études secondaires, ensuite faites votre université, graduez à licence, vous avez la base qu'il faut pour ensuite améliorer, si vous voulez, ce que vous avez acquis en termes de recherche à l'étranger.
Voilà. Alors, pour terminer, Daniel Djedi Djongambolo, je rappelle que vous êtes chargé des cours en droit civil à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Vous êtes en séjour à Kinshasa et vous rentrez bientôt au Canada. Oui. Alors, face à toutes ces... il y a eu beaucoup d'escroqueries dans ces domaines. Alors, pour aider les jeunes Congolais, vous avez mis en place un cabinet où ils peuvent... un cabinet conseil, où ils peuvent avoir gratuitement des informations pour faire des études au Canada. Comment s'appelle les cabinets encore? Pouvez-vous vous rappeler rapidement?
Alors, c'est CISEDGE à SARL, c'est un cabinet...
Qu'est-ce que cela veut dire, CISEDGE?
Alors, CISEDGE, en fait, il ne faut pas que le nom trompe les gens, parce que il s'agit plutôt vraiment d'un cabinet conseil.
D'un cabinet conseil,
pour, les études...
Vous avez une page Facebook ou une adresse mail ou, je sais pas,
un site internet? Il y a un site internet, CISEDGE.com, où les gens peuvent regarder, on mettra à jour les informations.
Mais c'est mieux de pas d'appeler d'abord.
C'est mieux d'appeler.
Et puis, vous pouvez vous rappeler le numéro?
Oui, le numéro ici à Kinshasa, c'est le 081-33-13-663. Donc, c'est un cabinet de droit congolais qui
tout
existe ici, pour lequel j'agis comme conseiller, tout simplement.
Tout simplement.
À partir de l'étranger.
Merci beaucoup à Daniel Djedi Djongambolo, chargé des cours en droit civil à la Faculté des droits de l'Université de Montréal.
Merci.